il est tout. Pour nous, n'est-ce pas, en Christ, finalement, nous avons tout, même si, bon, les choses matérielles de la vie, on en a besoin jour après jour, mais en lui, ben, nous avons tout, merci Seigneur. Et nous avons sa parole, ce qui est formidable. Imaginez-vous si on n'avait pas la parole de Dieu. Ben, on serait bien mal, on serait perdu à tous les niveaux, en fait. Mais nous l'avons. Et je vous invite à l'ouvrir ce matin dans le psaume 45. Le psaume 45. J'ai failli passer ce chapitre dans les psaumes, passer à un autre chapitre, mais plus je lisais ce chapitre, plus je méditais là-dessus, je me suis dit, oui, c'est pour nous aujourd'hui. Donc, nous allons examiner ce chapitre pendant quelques minutes. Si nous regardons au verset 1, comme la plupart des psaumes, des chapitres dans cette partie, ben, c'est au chef des chantres, donc le maître, pas le maître chanteur, hein, mais celui qui dirigeait le chant. Donc le chef de ceux qui chantaient, chef de chorale si vous voulez. Donc c'est bien un chant sur les lys, donc une certaine musique. Et encore une fois, les fils de Corée. Et je veux le relever à chaque fois qu'on le voit, l'extraordinaire bonté, grâce, miséricorde de Dieu, d'une famille aussi rebelle que la famille de Corée. Corée, c'est bien celui qui s'était rebellé dans le désert, qui a dit à Moïse, à Aaron, « Ah, c'est pas vous qui devez, entre guillemets, régner sur nous. Nous aussi, on veut participer. » Et là, qu'est-ce que Dieu fait ? Bah, carrément, il ouvre la terre les engloutit, il descend dans la terre, il meurt. Mais c'est de leur famille que viennent tous ces beaux cantiques. Dieu les a utilisés par la suite, c'est vraiment extraordinaire. Comme quoi, on n'est pas voué ni à l'échec, on n'est pas voué à répéter les erreurs de nos ancêtres. Non, quand on se tourne vers Dieu, bien sûr, Dieu fait grâce et il nous permet d'œuvrer pour lui. Alors, ce verset 1, cantique, et puis, c'est un chant d'amour. Alors, vous allez voir à travers ce chant, c'est pour une occasion bien spécifique et une occasion où on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous aujourd'hui ? À la limite, il y a presque 3000 ans, c'était valable, c'était bien. Mais nous, 21e siècle, 2022, allez... Ok, c'est une belle histoire, mais ok, sans plus. Et pourtant, en lisant ce chapitre, je me suis rappelé, et vous aussi peut-être vous y pensez, Paul, il va dire aux Corinthiens, tout ce qui a été écrit à l'avance l'a été pour notre instruction. Tout ce que Dieu nous a laissé dans sa parole est là pour un but. Il n'y a rien de superflu dans la parole de Dieu, rien de trop, et il ne manque rien. Et si ce chapitre est dans la parole de Dieu, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et si Dieu l'a voulu, eh ben, il veut nous enseigner quelque chose, il veut nous faire progresser avec lui. Et c'est ça l'approche qu'il faut avoir pour n'importe quel passage, mais surtout celui-ci. Alors, on commence au verset 2. Et tout de suite, j'aimerais nous mettre en garde contre quelque chose dans la compréhension de ce chapitre. Alors, regardez verset 2. « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Hein? » Tous ceux qui sont mariés avant le mariage, quand vous avez rencontré la personne avec laquelle vous alliez vous marier, ben, je pense qu'on comprend un peu cela. On se dit, ouais, ben, on a plein de pensées, on a plein d'émotions, plein de sentiments, et ben, ça va jaillir. Et, alors, peut-être que vous avez entendu parler, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, un geyser a jailli littéralement au milieu d'une forêt au Japon. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais voilà, et ça continue encore aujourd'hui. Il y a des touristes qui prennent des photos, des vidéos, plein milieu d'une forêt, bah, comme ça. Bah, ça sort. Et c'est un peu l'idée ici, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, dans mon fort intérieur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Alors, la personne qui a écrit ce psaume, on ne sait pas exactement qui c'était, c'était un des fils de Corée, un des descendants, si vous voulez, ben, c'était spécifiquement pour le roi. Et la mise en garde que j'aimerais nous donner ce matin, c'est de ne pas penser tout de suite que le roi ici, c'est Dieu. Parce qu'on pourrait croire, ah oui, le grand roi, on fait une œuvre pour Dieu en tant que roi. Hein? On peut arriver à cela, mais tout de suite, il faut se souvenir que c'est pour un roi humain. Et il est bien possible que ce soit pour David lors d'un de ses mariages. Alors, David, il a eu plusieurs femmes, on le sait, avant d'être roi et même après. Et donc, ici, ce psaume est précisément pour l'occasion du mariage du roi. Et encore une fois, je me dis, mais peut-être que vous vous dites, et alors, c'est bien beau, mais nous, on n'était pas là. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui? Et pourtant, parce que ce passage est dans la parole de Dieu, oui, il y a quelque chose pour nous, et je pense que vous allez le voir au fur et à mesure qu'on voit ceci. Alors, le verset 2 continue, « Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Et en lisant cela, je me suis dit, cette personne qui écrit ce psaume veut, pour cette occasion spéciale, faire quelque chose de beau, quelque chose qui va ressortir, quelque chose même de mémorable pour un homme, pour une célébration, entre guillemets, humaine, aussi belle qu'elle soit. Un mariage, bah, c'est formidable, c'est magnifique. Deux personnes qui s'unissent, logiquement, selon la Bible, pour la vie, ils se promettent l'amour l'un à l'autre, c'est quand même quelque chose de formidable, mais ça reste quand même une célébration humaine, dans le sens où c'est pas Dieu. Même si Dieu bénit et Dieu dirige, mais voilà. C'est quelque chose d'un humain pour une célébration, on peut dire, humaine. Mais ce sentiment de bien faire, que ce soit mémorable, que cela puisse fortifier les sentiments, plaire. Et je me dis, si cet auteur a tant de soin pour quelque chose, pour un homme, pour une célébration plutôt humaine, aussi belle, aussi formidable qu'elle soit, n'est-il pas vrai que vous et moi, lorsque nous allons vers Dieu, lorsque nous allons faire quelque chose pour Dieu, quel qu'elle soit, nos sentiments ne devraient-ils pas être les mêmes? Ce que je fais est pour Dieu. Il mérite que je le fasse de mon mieux. Il mérite que je le fasse avec respect. Il mérite que je le fasse avec joie. Dieu mérite que ce que je fais pour lui soit avec ferveur, avec intelligence. Si cet auteur était tellement préoccupé avec quelque chose, on va dire au niveau humain, combien plus, et c'était légitime, hein, combien plus nous, lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu, quel qu'il soit, ne doit-il pas être réfléchi, fervent, avec joie pour Dieu? Et cette personne qui va mettre ses paroles par écrit dit, je veux bien faire, je veux que ce soit, que ça reste, que ça dure, que ça marque dans un sens. Et puis, à partir de verset 3 et dans les versets qui suivent, cette personne va reconnaître la bénédiction de Dieu. Alors, spécifiquement sur le roi, regardez, tu es le plus beau des fils de l'homme. Alors, encore une fois, il peut s'agir de David. Dans les livres des rois, quand on parle de David, surtout lorsqu'il était jeune, ben, on dit que c'était un beau garçon. Okay. Et ici, ben, on reconnaît, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est-à-dire il pouvait bien parler. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Et ceci est intéressant, et c'est une leçon pour nous de pouvoir identifier, non seulement lorsque Dieu travaille et me bénit, mais de pouvoir identifier lorsque Dieu travaille et bénit les autres. de pouvoir dire, ah oui, Dieu, il a fait du bien. Dieu, il a béni là, Dieu, il a pourvu, et de pouvoir dire, gloire à Dieu. L'auteur ici dit, ben, Dieu, il a béni le roi. Déjà, Dieu, il avait promis de le faire. Si on reprend des versets qui remontent jusqu'à Deutéronome, il y aura un roi et je vais le bénir. Dieu, il avait fait cela. Et l'auteur ici le reconnaît. Et pour nous, aujourd'hui, lorsque nous réfléchissons à nos frères et sœurs, lorsque nous réfléchissons à l'œuvre de Dieu, de pouvoir identifier la bénédiction de Dieu et de remercier Dieu pour cela. Il y a tant de choses dans ce monde qui ne vont pas. Vous allumez la télé et qu'est-ce que vous voyez ? Ce qui ne va pas. Ben, vous ouvrez votre téléphone avec les infos et qu'est-ce que vous allez trouver ? Ben, ce qui ne va pas. Ici, dans ce chapitre, nous voyons qu'à ce moment précis, cet auteur voulait mettre l'accent sur la bénédiction de Dieu. Ben, Dieu, il bénit. Pas toujours de la même bénédiction. Il ne bénit pas tout le monde pareil, ni même au même moment. Mais Dieu bénit, Dieu est là. Et de reconnaître cela et de dire « Merci Seigneur, gloire à Dieu ». Et puis verset 4, bien sûr, un des aspects du roi, bah, c'était de mener les guerres de Dieu. « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire ». C'est-à-dire, prépare-toi pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Le roi, il n'était pas là juste pour recevoir de l'argent, se faire un beau palais, être dans l'aisance et tout. Non, le roi était là aussi pour mener, diriger le peuple, pour protéger, pour aider. Et donc, prépare-toi à l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Et pour nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, ben, Dieu nous a appelés à une œuvre. Chacun d'entre nous. Déjà, il appelle au salut. Le salut est le point de départ. Il faut accepter Christ comme son sauveur. Mais si nous sommes sauvés, ben, Dieu nous appelle à une œuvre. Pas la guerre, hein, attention. Pas du tout la guerre. Du moins, pas la guerre physique, la guerre spirituelle. Mais voilà, Dieu nous appelle à une œuvre et il faut s'y préparer. Chaque jour, de se lever et de se dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» De se lever et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui ?» Et se préparer pour cela et le faire. Ici, les armes, l'épée, se mettre sa ceinture autour, s'habiller et tout, encore une fois, ce n'était pas pour faire joli. Non, c'était pour préparer, pour se mettre à l'œuvre, pour accomplir ce que Dieu il a à faire. Et au verset 5, « Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. » Ces flèches le feront. C'est-à-dire, ben, toujours être à l'œuvre, aller de l'avant, ne pas avoir peur devant les ennemis. En Israël, il y avait des ennemis, des Philistins, tous les uns, vous savez, les Philistins, les Amoréens, et voilà, beaucoup d'ennemis. Et le risque, c'était d'avoir peur. Ah, tous ces ennemis qui sont devant, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais non, d'aller de l'avant. On a la toute-puissance de Dieu avec nous. Et puis, Dieu bénit. Mais au verset 7, ben là, ça prend une autre tournure. Parce que jusque-là, c'est le roi qui est en avant. Que Dieu bénit, bien sûr, que Dieu fortifie, pour lequel Dieu a fait des choses, qui doit se préparer à l'œuvre que Dieu a préparée pour lui. Mais là, regardez verset 7. Parce que qui doit être au centre ? Le roi ? Non. Un homme, un personnage, telle ou telle personne ? Non. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Alors le contraste ici, il est frappant. Enfin, moi je le vois, j'espère que vous le voyez. Un roi, il va régner pendant combien de temps ? Jusqu'à sa mort. Tant qu'il vit. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Et qu'est-ce qui se passera avec son règne? Ben, ça passera à quelqu'un d'autre. Peut-être un de ses fils, mais peut-être pas. Et pour nous, aujourd'hui, bien sûr, en France et dans la plupart des pays, il n'y a plus de roi. Bon, quelques pays conservent un roi, mais c'est souvent juste un titre plus qu'un autre. Parfois, c'est une reine. Mais on voit, et même l'Épître aux Hébreux le confirme, eh bien, nous, les êtres humains, nous mourrons. Le règne de quelqu'un ne peut pas durer plus longtemps que sa vie. Mais, verset 7, le trône, c'est-à-dire ce qui symbolise le règne de Dieu, il dure combien de temps? Éternellement. Il n'aura pas de fin. Jamais. Et ce règne, il a déjà commencé. Ne croyez pas que le règne de Dieu est simplement pour l'avenir. Bon, il se manifestera complètement dans l'avenir, mais le règne de Dieu a déjà commencé. Et l'auteur ici dit, ton Dieu, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Dieu est là. Les rois, que ce soit Saül, aussi mauvais qu'il était, que Dieu a permis, David, un des plus grands rois d'Israël, Salomon, ce roi sage, tous avaient leurs défauts, tous avaient leurs péchés, tous sont morts, et leur royaume est passé à quelqu'un d'autre. Le royaume de Dieu dans lequel nous sommes par Jésus-Christ, ce royaume-là est un royaume éternel. Et ce royaume-là, il n'est pas en danger. Ce roi, il ne cédera jamais son pouvoir à quelqu'un d'autre. Ce roi, il ne passera jamais. Et c'est un roi de justice et d'équité. Et ici, en 2022, lorsque nous réfléchissons là-dessus, ça doit nous apporter une paix intérieure, cette paix que Dieu donne qui surpasse toute intelligence. Parce que tout dans notre vie, tout dans notre monde change. Tout change. Qu'est-ce qui reste pareil? Qu'est-ce qui reste le même? C'est Dieu et son règne. Et parce que Dieu est roi, parce que son trône est pour toujours, parce qu'il a le sceptre, eh bien, ça lui donne de l'autorité. Dieu a l'autorité sur tout. Il a tout créé. Tout existe et continue par lui. Donc, il a l'autorité. Il a l'autorité sur ma vie. Quand Dieu dit, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, ben, il a le droit de le dire. Et lorsque Dieu dit dans le monde, ceci va se passer comme ça, personne, ni aucun gouvernement, aucune armée, aucune force militaire ne peut le contrarier. Ce verset 7 doit être un verset qu'on peut placer peut-être chez nous ou entourer. L'autorité de Dieu qui est toujours là, son règne éternel, sa puissance, son soin également pour nous jour après jour. Et l'auteur de ce chapitre ne pouvait pas le comprendre complètement, mais il fait référence ici à Jésus-Christ. Comment le savons-nous? Parce que, voilà, on a une intelligence supérieure, parce que... Non. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, ces versets sont repris. L'Épître aux Hébreux, cet auteur va aller piocher un peu partout dans les psaumes des versets pour les appliquer à Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voyons. Verset 8, « Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Et j'essaie de me mettre à la place de la personne qui a écrit ceci il y a presque 3000 ans, de ceux qui l'ont entendu le jour de cette célébration et qui disent « C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. » Hein? Quoi? Non mais... Il n'y a qu'un seul Dieu. Non, mais attendez, là, il y a un problème. Ô Dieu, ton Dieu, mais À qui est-ce qu'on fait référence? Et bien sûr, nous ne savons que c'est Jésus-Christ. Encore une fois, voilà pourquoi Jésus-Christ, il est Dieu. Il s'est présenté comme Dieu, il est vraiment Dieu. Rien de moins que Dieu lui-même, tout en étant 100% homme. C'est pourquoi, ô Dieu, donc là, Jésus-Christ, ton Dieu, donc le Dieu le Père, t'a oint d'une huile de joie par privilège, ou au-dessus, avant, tes collègues, tes frères, disent certaines traductions. Et cette huile de joie, c'était pour marquer une distinction, c'était pour mettre à part quelqu'un pour quelque chose de spécifique. Et ici, c'est Jésus-Christ, bien sûr, mais les privilèges de Jésus-Christ passent à nous aussi. L'Épître aux Hébreux le montre. Nous sommes fils de Dieu par adoption. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Et lorsque nous voyons que Dieu a dirigé cet auteur à écrire ceci, à la fois sur David, sur Dieu, dans le psaume 45, et puis c'est repris pour Jésus dans Hébreux chapitre 1, montre l'infinie sagesse de Dieu. On a tendance à limiter Dieu. Que Dieu, ben, il est unidimensionnel. Et une dimension, allez, peut-être deux, peut-être trois, mais Dieu, il est tellement plus grand. Ce qui veut dire que n'importe quelle situation devant laquelle on est, aussi complexe que soient les choses, et même si nous n'arrivons pas à voir le bout, même si nous n'arrivons pas à voir tous les aspects et tout résoudre, c'est pas grave. Parce que le Dieu au-dessus de toute intelligence, le Dieu qui est la sagesse même, qui a planifié toute chose depuis l'éternité passée, qui sait exactement ce qui va arriver, eh ben, c'est ce Dieu-là qui prend soin de nous. C'est ce Dieu-là qui nous associe à son Fils. C'est ce Dieu-là qui nous fait entrer dans sa famille. C'est ce Dieu-là qui prépare les choses pour nous. C'est ce Dieu-là qui nous accompagne dans toute situation. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les choses complexes, quelles que soient des personnes auxquelles nous avons affaire, des situations, des soucis, tout, ce grand Dieu est là avec nous. Et quand on a cette pensée, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui pourrait nous troubler? Lorsqu'il y a des choses qui nous troublent dans notre vie, parce qu'il y en a, ça, ne nions pas cela, mais revenons à des passages comme ceci, parce que Dieu veut nous encourager, Dieu veut nous montrer qu'il est là. Alors au verset 9, là, il y a l'abondance. Il y a presque l'abondance extrême parce que la myrrhe, l'aloès, la casse qui parfume tous les vêtements, ben, c'était des choses très chères. Et puis des palais d'ivoire, imaginez-vous des bâtiments, des maisons faits d'ivoire. Et aujourd'hui, le commerce d'ivoire est très, très réglementé. Alors je dois faire attention parce que ceci est enregistré. Mais mon frère, une fois, il est allé en Asie. Et ils ont des éléphants là-bas. Et puis, il a pu ramener, parce qu'on n'a pas vérifié, en fait, il a ramené de l'ivoire avec lui. Alors, c'est strictement interdit. Ne faites jamais cela, parce que si jamais vous vous faites arrêter, ça ne passera pas bien. Mais que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, ben, le trafic d'ivoire, c'est quelque chose qui est très... Enfin, le commerce d'ivoire est très réglementé. Il y a malheureusement beaucoup de trafic dans les marchés clandestins. Mais imaginez-vous un bâtiment, quelque chose fait d'ivoire. Peut-être pas de l'ivoire solide, peut-être plaqué d'ivoire, mais imaginez-vous ici, l'abondance qu'il y a. Nous savons qu'à l'époque de David et à l'époque de Salomon, il y avait une abondance de toutes les richesses. Que, en fait, la Bible nous explique, même l'or et l'argent, c'était pas grand-chose. Il y en avait tellement que, allez, de l'or, on pouvait jeter, quoi, pratiquement. L'histoire de quelqu'un qui qui était énormément riche, qui avait des lingots d'or, voilà le mot que je cherchais, des lingots d'or, qui remplit une valise de cela parce qu'il veut l'emmener au ciel. Alors, il remplit, et puis et en fait, il y arrive, il emmène cela là-haut avec lui parce qu'il tenait tellement à son or et tout, et donc il arrive au ciel, et puis il regarde autour, et puis on vient lui poser la question, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous avez emmené des pavés? Bah parce que les rues sont d'or, hein, donc l'or au ciel, c'est rien. Et donc, bon, histoire inventée, hein, vous comprenez. Mais ici, l'abondance qu'il y avait, bien sûr, bénédiction de la part de Dieu, et il était légitime de se réjouir, d'utiliser cela, dans un sens de faire la fête ici, rien de mal, dans les limites de la parole de Dieu. Et puis, à partir de verset 10, c'est quelque chose d'assez formidable. Dieu nous laisse entrevoir dans ces versets que son plan n'a jamais été exclusivement pour les Juifs. Regardez à partir de verset 10. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir, donc la chose la plus précieuse à l'époque. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses regards, ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Ici, on parle des non-juifs. On parle même de certains ennemis, parce que Tyr, à un moment donné, et pendant assez longtemps, sera ennemi d'Israël. Mais on voit qu'ici, ils apportent à Israël, ils apportent au roi, et ils vont apporter à Dieu, finalement, leur richesse. Et nous voyons par cela, ce qui est confirmé dans bien d'autres passages dans la parole, que Dieu s'intéresse pas simplement aux Juifs. Bon, il s'intéresse aux Juifs, hein, mais il s'intéresse aussi aux non-juifs. Le cœur de Dieu est tellement grand. Et ici, il permet à ces non-juifs, ces nations, de venir le louer, le célébrer en apportant ces choses au roi. On voit qu'il utilise les nations pour faire du bien à son peuple. C'est quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, ne limitons pas Dieu. Dieu utilise qui il veut. Dieu pourvoit par des moyens qui sont propres à lui. Et Dieu veut les nations. Dieu veut les non-juifs. Heureusement, parce que c'est vous et moi. On n'est pas juifs. Et Dieu a préparé depuis toujours d'intégrer les non-juifs dans son peuple. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis toujours cette description de l'abondance, de la beauté, verset 14, toute resplendissante, et la fille du roi dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissé d'or. Donc c'est pas que le vêtement lui-même était complètement d'or, mais de l'or coupé en fines, presque des fils, et puis brodé. Donc. Et ça rappelle des images du tabernacle. Si vous reprenez des descriptions du tabernacle, c'est ce qui se faisait avec des voiles de la tente donc, du tabernacle. Donc quelque chose de magnifique qui devait briller, étinceler. Et puis verset 15, elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, suivi des jeunes filles, ses compagnes qui sont emmenées auprès du roi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. C'est-à-dire, Dieu donnera de l'abondance, il continuera, il le bénira. Et puis, cette bénédiction continuera. Cette bénédiction, ce n'est pas juste pour une personne. Ce n'est pas simplement pour un tout petit moment et puis après plus rien. Non, en fait, cette bénédiction allait continuer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que après David, si c'est bien David et un de ses mariages dont il est question, il y avait Salomon. Et déjà, à l'époque de David, ça commençait à décliner. Ça commençait, bah, on commençait un peu à s'éloigner de Dieu. Avec Salomon, ça a continué, parce qu'il s'est marié avec énormément de filles étrangères. Et puis, après Salomon, cette descente ou cet éloignement de Dieu a vraiment continué. Et pourtant, Dieu va faire grâce pendant littéralement des centaines d'années. Entre David et Salomon et la captivité en Babylone, il va se passer plusieurs centaines d'années. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est patient, parce que Dieu veut bénir encore. Et lorsque, à travers ces versets, nous voyons que Dieu bénit, qu'il le fait pas simplement pour juste un petit groupe spécifique, celui-là, non, mais en fait, il le fait pour tous ses enfants, et il veut introduire tous dans sa famille par Jésus-Christ, on comprend que le plan de Dieu est tellement plus grand qu'on peut imaginer. Et ça doit pousser à la louange et à l'adoration. Et c'est précisément cela, sur cela que le psalmiste ici termine. Toute cette œuvre pour le roi, toutes ces belles paroles, ces sentiments qui étaient en lui qu'on voit au verset 2, où est-ce que ça termine? Simplement humainement parlant? Non. Verset 18, « Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Ben, » le nom de qui? Le nom du roi? Non. Bien sûr, David, ben, il sera bien connu dans la nation d'Israël encore aujourd'hui. Il est parmi ses plus grands personnages de ce peuple. Salomon? Non. Un roi humain? Non, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qu'on doit rappeler. Qu'on se souvienne de David, qu'on se souvienne de Salomon, qu'on se souvienne de vous même. Bon, c'est bien, rien de mal dans cela, mais qu'on ne s'en souvienne pas, ce n'est pas grave. Qu'on se souvienne de Dieu, c'est ça le plus important. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Pourquoi? Ben parce que Dieu agit. Parce que Dieu bénit, parce que Dieu prépare pour nous un plan magnifique, merveilleux, qui est au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Parce que Dieu fait du bien, parce que Dieu règne, parce que Dieu est présent. Voilà pourquoi nous rappelons le nom de Dieu dans tous les âges. Nous sommes de ceux qui annoncent son nom. Et quel est le résultat? Aussi, parce que nous le faisons, les peuples te loueront-ils éternellement et à jamais? Qui peut être loué éternellement? Un homme? Non. Moi? Vous? Non. Dieu peut et doit être loué éternellement. Et alors que nous résumons ce chapitre, souvenons-nous, c'est dans un contexte de fête, un contexte de célébration, quelque chose de joyeux, gloire à Dieu, amen. Et nous pouvons penser à nos vacances, on se dit, bah, ça se passe bien, on se détend, on a des activités diverses et variées, on a des moments de joie, on peut avoir des moments de fête et tout, et ça c'est légitime, profitons-en. Ne nous privons pas, surtout pas. Le monde, il est déjà assez dur. Ne nous privons pas de bons moments que nous pouvons avoir. Par contre, dans tout cela, pour moi, pour vous, pour nous tous, que nous nous souvenions de Dieu, que nous annoncions au milieu de la fête, au milieu des réjouissances, que nous rappellerions le nom de Dieu, que nous annoncions tout au long de notre vie, du début à la fin, le nom de Dieu. Et de se poser la question, quand je serai dans la joie, quand je serai, entre guillemets, dans la fête, quand ça se passe bien et tout, à quoi est-ce que je pense? Tout simplement les bénédictions que moi j'ai reçues, ou est-ce que je pense à Dieu? Et est-ce que je prends du temps pour lui dire merci? Est-ce que je me prépare pour l'œuvre qu'il a préparée pour moi? Est-ce que je me mets à l'œuvre pour lui? Ce psaume écrit dans un contexte très spécifique, pour un moment très précis, on voit que Dieu nous parle aujourd'hui. À nous, ben, d'écouter sa voix, à nous, par la suite, de mettre cela en pratique pour que nous pouvons avoir ce témoignage. Je rappellerai ton nom dans tous les âges, aujourd'hui, demain, jusqu'à mon dernier souffle. Et à cause de cela, les peuples te loueront éternellement et à jamais. Que ce soit le témoignage de la vie de chacun d'entre nous, aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Prenons quelques instants dans une prière silencieuse devant le Seigneur pour demander son aide. Déjà pour commencer à le louer au fond de nous, mais demander son aide pour continuer de le faire tout au long de cette journée et tout au long de cette semaine. Oui, notre Dieu, tu es grand, tu es magnifique, tu es merveilleux, tu es fidèle. Merci que tu bénis, merci que tu agis, merci que ton règne est un règne éternel. Tu as l'autorité, tu diriges toutes choses. Tu nous associes à cela, Seigneur, tu prends soin de nous. Aide-nous à te louer, à te glorifier, à parler de toi, à tous ceux qui nous entourent. Aide-nous à manifester par notre vie que nous t'appartenons. Aide-nous à nous réjouir de toutes tes bénédictions, Seigneur, et au milieu de ces réjouissances, te dire merci et t'exalter, te glorifier. Aide-nous, Seigneur, rappelle-nous ces choses pour que nous puissions les rappeler à d'autres, afin que, en toutes choses, tu sois glorifié et exalté. En ton nom. Amen.